RMC.
Effectivement, si vous arrivez cric-crac, ben vous avez plus de chances de louper votre avion.
Ma volonté, il est de quitter le club. Et peut-être que jamais je vais expliquer la raison pour laquelle je veux lâcher le club.
Bonjour à tous. Je suis très content de revenir à Paris. Ici, c'est Paris.
After Paris.
Thibaut Giangrande.
Salut mes Parisiens, comment ça va? Bienvenue dans l'After Paris, le podcast qui débat de l'actu du PSG toutes les semaines. Dispo, vous le savez, sur les applis RMC, RMC Sport ou sur vos plateformes habituelles, comme vous voulez. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour ne rien rater. Vous pouvez toujours commenter ou encore noter vos épisodes. Coach Courbis est là cette semaine. Salut mon Roland.
Salut les amis.
Et Jimmy Brown. Salut Jimmy.
Salut Thibaut, salut Roland, salut à tous.
Salut Jimmy.
Équipe Champions League, puisque notre drôle de dame italienne est là. Johan Crochet, salut Yo.
Bonjour à toutes et à tous.
Salut.
Et oui, fini la trêve internationale, c'est enfin le retour du championnat, ok. Mais surtout de la Coupe d'Europe la semaine prochaine.
Elle est belle, cette musique.
Ouais. On va se la mettre en intégralité.
Tout au long du podcast.
On revient dans 5 minutes. Elle est belle, et si on veut l'entendre encore, cette musique au parc, en 2024... va falloir assurer mercredi face à l'AC Milan. Paris giflé à Newcastle reçoit le demi-finaliste de la dernière édition, le Milan 2023-2024. Ça vaut quoi? C'est notre thème de la semaine. Alors déjà les gars, on est sûr d'un truc, leur nouveau gardien là, Olivier Giroud, il est pas mal, ils ont un bon gardien les Milanais.
Paris, ils ont permuté avec Maignan, ouais. Maignan il joue avant ça.
Il joue avant ça, ouais. Pas mal, non, blague à part. Énorme, on a tous vu l'image, c'était à Valorant avant.
C'est déjà extraordinaire d'aller faire cette fin de match. Et en plus, bon, on pouvait penser qu'il n'aurait rien eu à faire. Au contraire, il a même fait un arrêt décisif, je crois.
Bon, Maignan sera là, tu confirmes, Yo, ce ne sera pas Giroud dans les buts, hein, mercredi ou pas.
Et non, parce que Maignan a pris un match de suspension, mais c'était en championnat.
C'est dommage, c'est dommage que ce ne soit pas applicable en Coupe d'Europe. J'aurais bien aimé. Le match sans Maignan, ce n'est pas pareil quand même.
C'est sûr. Bon, Yo, comment ça se passe ce début de saison du Milan? Leader de Serie A après 8 journées. Mais il y a quelques matchs qui posent question, parce qu'il y a une seule défaite, mais c'est une raclée 5-1 face à l'Inter. En Ligue des Champions, c'est 2-0-0 contre Newcastle et Dortmund. Comment toi, tu l'analyses ce début de saison?
Bon, il y a un match qui est vraiment à part. Je trouve que les deux Ligues des Champions peuvent être plus ou moins dans la lignée de ce qu'on voit en championnat. Le match qui est vraiment à part, qui est totalement raté, c'est le derby contre l'Inter, où ce qui a été très désagréable pour les supporters du Milan, c'est que après le troisième but interiste, l'équipe a lâché. Et ça, c'est pas habituel, c'est pas digne d'une équipe de l'AC Milan. Et donc, ça a été un premier signal d'alarme pour l'environnement milanais, on va le dire comme ça, en incluant les supporters, tout le club, les dirigeants, etc. Et finalement, ce qui a été intéressant aussi de constater, c'est qu'après cette gifle, ben, ils ont très très bien réagi. Tu parlais des deux matchs en Ligue des Champions. Autant celui contre Dortmund, bon, j'étais pas très satisfait de la prestation du Milan, je les ai pas trouvés dingues, pas très tranchants. Ils se sont créés suffisamment d'occasions pour le gagner, ce match. Il faut quand même noter aussi que Dortmund avait eu deux belles occasions. Mais finalement, c'était un 0-0 presque inhabituel vu les 2-3 grosses occasions par équipe qu'il y avait eu. Le match contre Newcastle, c'est un très bon match du Milan.
C'est un miracle que Newcastle parte pas.
Ah, mais Newcastle s'est fait marcher dessus par Milan pendant 90 minutes. La première occasion de Newcastle, de mémoire, c'est 92e minute sur un tir en dehors de la surface. Ils se sont fait rouler dessus par Milan, sauf qu'ils ont été extrêmement maladroits dans la finition. Je me souviens d'actions de Leao, je me souviens de percussions des milieux de terrain, je me souviens même de Leao, vous vous souvenez de cette image où il dribble tout le monde, il essaie de finir par une talonnade. Enfin, c'était absurde en fait ce match, tellement il y a eu d'occasions et de finir par 0-0. Donc ce match-là, finalement, moi je trouve qu'il est plus en faveur de Milan qu'en sa défaveur. La vraie problématique, c'est le match contre l'Inter, où on sait que Pioli, depuis qu'il est à Milan, a eu toujours beaucoup de mal contre l'Inter et Simone Inzaghi.
Mais il y a beaucoup d'équipes qui ont du mal contre l'Inter. Hein.
Parce que les autres matchs importants finalement au championnat, juste pour terminer,
ils
battent la Roma à Rome, ils battent la Lazio facilement aussi à domicile. Donc pour le moment, même quand le niveau s'élève, Newcastle c'était un niveau qui était plus important aussi, parce qu'on a vu ensuite que Newcastle était capable de faire des gros matchs, ils ont répondu présent.
Coach Jimmy, est-ce que cette équipe de l'AC Milan vous fait peur, rapportée à ce qu'on voit du Paris Saint-Germain depuis le début de saison?
De toute façon, tu peux pas être confiant quand tu vois la prestation du PSG à Newcastle. Yo en parlait il y a quelques instants. Peut-être la chance de Paris, et j'aimerais interroger Yo à ce sujet, c'est que le match, il est quand même coincé, ce PSG-Milan, entre un Juve-Milan dimanche soir, là où Paris va jouer à 17h samedi contre Strasbourg, et un Naples-Milan, ou un Milan-Naples, juste après le match au Parc des Princes.
Exactement.
Est-ce que l'objectif principal de Milan cette saison, c'est de récupérer le Scudetto, et ils ont fait un recrutement, ils ont étoffé l'effectif aussi pour ça, ou comment ils ont réagi en fait? T'as l'impression qu'avec ce groupe de Ligue des Champions, c'est peut-être pas une priorité de refaire un parcours européen. Comment on voit les choses côté milanais?
Alors, Milan te dira jamais qu'il n'y a pas de priorité en Coupe d'Europe. C'est impossible, c'est dans son ADN. Donc ils te diront jamais que « Ouais, bon, la Coupe d'Europe, on verra ». Non, l'ADN du Milan, pourquoi Milan a été connu dans le monde entier, c'est pas pour ses titres en championnat, c'est pour ses titres en Ligue des Champions. On se souvient tous des grandes équipes de Sacchi, d'Ancelotti, même dans les années 60, ils ont gagné des Ligues des Champions. Donc c'est vraiment un marqueur de ce club-là. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que quand on est à Milan et qu'on est dirigeant, on peut pas dire que l'objectif, c'est de faire aussi bien que la saison dernière. Parce que la saison dernière, c'est demi-finale, et que personne ne pensait que c'était possible au début de la saison. L'objectif, il est clair, c'est de passer cette phase de groupe, même si le groupe est très compliqué. Et en championnat, il y a deux équipes qui sont aujourd'hui plus armées pour gagner ce Scudetto. C'est l'Inter, qui a le meilleur effectif d'Italie, et la Juventus, qui a un très bon effectif,
et pas de coupe
et en
d'Europe.
Plus, voilà, qui a une seule compétition à jouer. Donc, comme l'année dernière, d'ailleurs, Milan est dans un deuxième groupe. Derrière ce qui était déjà les deux favoris la saison passée, Inter et Juve. Donc évidemment que le calendrier pose problème pour Milan, parce qu'en plus, il y a des moments où ils ne vont pas pouvoir faire tourner, notamment contre la Juve, Théo Hernandez ne sera pas là. Alors c'est un bon côté parce qu'il sera frais contre Paris, mais en même temps, c'est un problème de compétitivité pour le match contre la Juve. Il n'y a pas de priorité claire, nette et absolue. Il y en a deux qui sont claires sur les objectifs de fin de saison. C'est être dans les quatre premiers, pour des raisons à la fois sportives, de prestige et aussi économiques, et passer la phase de groupe de Ligue des Champions. Et après, on sait très bien, on l'a vu la saison passée avec le Milan, mais aussi avec son rival et voisin, l'Inter, qu'un parcours où tu rencontres des équipes qui ne sont pas forcément des tops européens, bah, peut te permettre d'aller en demi-finale ou en finale.
Roland, ton avis sur cette équipe de l'AC Milan version 2023-2024?
Disons que je ne fais aucune comparaison possible avec l'Inter. Puisque c'est pas seulement en championnat, il y a eu aussi cette demi-finale en Champions League qui a donné la possibilité à l'Inter. Et rappelons-nous les commentaires que nous faisions sur l'Inter. On se disait oui, évidemment que City paraît injouable, mais s'il y a une équipe capable justement de leur poser des problèmes, c'est l'Inter. Et ben c'est ce qui s'est passé en finale.
Toi, tu les mets bien en dessous, l'AC Milan, c'est ça?
Ah, pour moi, oui.
Oui, mais à la différence, Roland, c'est que par rapport au Milan qui joue l'Inter en demi-finale la saison dernière, ils se sont quand même pas mal renforcés, les Milanais. Tu récupères Pulisic devant, tu t'étoffes au milieu, tu reprends Reinders qui vient des Pays-Bas, qui est un super joueur. Je parle sur le contrôle de Yo, t'as Loftus-Cheek aussi qui est rentré dans cette équipe-là. Ils ont beaucoup plus de. Il y a Okafor qui est venu aussi devant pour renforcer, parce que Giroud était un peu seul. Tu sens que qualitativement et surtout quantitativement, ils se sont améliorés par rapport à l'année dernière, parce que si je dis pas de bêtises, ils n'ont pas perdu grand monde. Yo.
Ouais, mais
attends, vas-y, Roland.
Je vois quand même l'effectif de l'Inter supérieur. Maintenant, chacun ses goûts, je peux me tromper, mais je vois aussi peut-être en interne un joueur au milieu qui va avoir des problèmes prochainement aussi.
Non, mais je suis d'accord avec Roland sur le fait que l'effectif de l'Inter est supérieur. Enfin, pour moi, en tout cas, dans l'évaluation globale, comme on dit toujours, sur le papier. Jimmy, tu as raison, il y a deux départs majeurs, enfin il y en a surtout un, il y a un joueur majeur qui ne l'a
Tonali,
pas été la saison dernière, c'est De Ketelaar.
Il y a Tonali qui est parti, bien sûr,
j'allais. Et voilà, le joueur majeur qui est parti, c'est Tonali. Néanmoins, le recrutement a été fait sur une double stratégie, enfin même une triple stratégie. Numéro un, renforcer en quantité l'effectif, parce qu'on sait que l'année dernière, ce qui a été problématique, parce qu'aujourd'hui, on se dit, Milan est en Ligue des Champions, c'est qu'ils ont fini dans les quatre premiers. Mais si la Juventus n'est pas sanctionnée, Milan n'est pas en Ligue des Champions. Ouais, Milan récupère 4e. La place laissée par la Juventus. Ouais. Donc, c'est parce que en fin de saison, sur la deuxième partie de saison, les joueurs, quand il a fallu faire un petit peu tourner, que certains étaient un peu fatigués, qu'il fallait faire des remplacements un peu plus tôt dans les matchs, etc., ils n'avaient pas les joueurs pour avoir un 11 compétitif pendant les 90 minutes tous les 3 jours.
Et tu penses que là, c'est fait, ça ?
Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de profondeur de banc. Le deuxième axe, et ça va rejoindre le premier, c'est qu'il y avait une volonté de ne plus être côté gauche dépendant. On sait évidemment que le côté gauche, Théo Léao, est incroyable. C'est une des côtés les plus forts en Europe, si vous prenez latéral attaquant. Il demeure aujourd'hui très fort. Néanmoins, avec l'ajout de Pulisic et de Chukwueze qui ne sera pas là, donc c'est une solution de remplacement en moins, mais surtout Pulisic depuis le début de la saison, qui est le meilleur buteur de l'AC Milan, c'est un moyen de se rendre moins prévisible à travers le simple côté gauche. Et le troisième objectif de ce mercato, ça a été de rajeunir encore l'effectif, parce que quand vous prenez les Pulisic, Chukwueze, Younous Moussa, Tijani Reinders, Loftus-Cheek, Okafor, on n'est pas en train de parler de trentenaires, hein. On est en train de parler des joueurs qui ont encore 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans devant eux pour être au plus haut niveau. Donc le troisième objectif, c'était de rajeunir l'effectif et d'amener cette dimension qui est toujours recherchée, et Milan est un des rares clubs à avoir cette vision-là sur l'évolution du football, beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus de volume de course, des joueurs beaucoup plus promptes à faire le pressing haut, du pressing intense pendant longtemps. Et donc ça, c'est des joueurs comme Pulisic, Chukwueze, Moussa au milieu de terrain, Loftus-Cheek, c'est des joueurs qui amènent ce côté-là. Donc vraiment, le recrutement a été ambitieux malgré la perte d'un taulier comme Tonali.
Mercredi, cet AC Milan est au Parc des Princes donc pour ce troisième match de Ligue des Champions. Et si on se projette face à ce Paris Saint-Germain-là, souvent très déséquilibré vers l'avant, comment est-ce que vous voyez l'opposition tactique, déjà coach et Jimmy? Est-ce que pour vous, face à l'équipe dont nous parle Yo, ce serait suicidaire, par exemple, Jimmy, de retourner avec les fameux quatre attaquants?
Moi, je ne pense pas qu'il le reproduira. Je pense qu'il a compris la leçon, même s'il n'a pas voulu l'admettre en conférence de presse, Luis Enrique. Vu ce qui s'est passé à Newcastle, tu peux jouer, tu peux jouer en 4-4-2, encore une fois, mais tu ne peux pas jouer, je pense, et je parle là sous le contrôle de Roland, avec Mbappé, Colomwani, Ramos, Dembélé. Je pense que cette configuration-là, tout du moins en Ligue des Champions, on ne la reverra plus. C'est mon avis. Après, peut-être qu'il peut nous surprendre, comme il nous a surpris à St. James Park, Luis Enrique. T'as besoin, on a bien compris que dans cette équipe-là, Kylian Mbappé n'était pas un fervent défenseur.
C'est mignon comment tu le dis.
Ouais, il n'a pas envie. Voilà. Bon, après, tu peux comprendre que quand t'es Kylian Mbappé, t'as des joueurs qui défendent pour toi aussi. Tu vois, quand tu fais autant de différence, c'est normal que tu sois un peu plus dispensé du travail défensif que tes partenaires. Donc, mettre Kylian Mbappé sur ce côté gauche, même si. Le côté fort du Milan, Johan le disait, c'est plus le côté gauche justement, leur côté gauche, donc le côté droit parisien. Ça va être une vraie opposition de voir Hakimi, Théo Hernandez d'un
Hakimi,
côté,
Léao,
Dembélé qui va avoir son rôle à jouer aussi. Ça va être très très intéressant à suivre.
Roland, tu mettrais quel PSG toi face à Milan?
Et disons que
quelle organisation?
Déjà pour moi, l'adversaire du PSG avant Milan, c'est Luis Enrique. Donc c'est-à-dire que si nous avons un Luis Enrique têtu qui veut nous inventer quelque chose une fois de plus, je trouve que ça serait dommage parce que l'équipe que Luis Enrique a mis contre Dortmund, je pense que cette équipe-là, sincèrement, je la trouve tout simplement injouable. Aujourd'hui, il va avoir à régler, mais bon... Ces problèmes-là, j'aurais bien aimé, quand j'étais entraîneur, avoir à les régler. C'est la forme et le doute que traverse un petit peu Colomani avec Dembélé. Mais il y a aussi d'autres solutions. Je ne sais pas où en est Asensio.
Il a repris l'entraînement, Asensio.
Mais imaginons, tiens, trois joueurs offensifs avec Mbappé à gauche, Ramos dans l'axe qui me paraît être... plus numéro 9 que Colomani. Colomani, pour moi, ce n'est pas un numéro 9, c'est un attaquant. Donc, qui se balade de droite à gauche, de gauche à droite, et qui peut être très, très dangereux. Et ensuite, tu mets Asensio côté droit, quand il sera rétabli, c'est-à-dire un Asensio qui, en rentrant vers l'intérieur avec son pied gauche, ouvrira le couloir à Hakimi, qui me paraît être en pleine forme cette année. Ah oui. Mais c'est un Paris Saint-Germain avec Vitinha, le petit
Zaïre
Emery
et
Ugarte. Mais c'est monstrueux comme équipe, ça. Qu'est-ce que tu vas nous faire des inventions? Donc là, je pense qu'il y a 5 changements à faire. à 30 minutes de la fin, eh bien, que le Paris Saint-Germain invente un petit peu des changements en changeant d'organisation, oui, ok. Mais ce Paris Saint-Germain-là, sincèrement, je ne vois pas qui c'est qui peut l'empêcher de terminer premier.
Johan, toi qui as plus vu l'AC Milan, qui a tout vu de l'AC Milan cette saison par rapport à nous et qui voit aussi le Paris Saint-Germain, comment tu vois ce match, l'opposition tactique notamment ?
Bah, c'est intéressant parce que vous avez tout de suite identifié côté droit parisien contre côté gauche milanais. Mmh. Et moi, je me souviens quand Hakimi était à l'Inter, qu'il jouait piston droit dans une défense à 3. La presse italienne, avant le match aller, avant le match retour, on avait fait des caisses sur l'affrontement Théo-Hakimi. Où, globalement, ce qui était dit, c'est que l'issue du match pouvait arriver de cette opposition-là, entre deux joueurs qui peuvent être extrêmement décisifs pour leur équipe, décisifs dans les bons côtés et dans les moins bons côtés. Ça sera sans doute une des clés. Ce que Milan est capable de faire, surtout, c'est que Milan est capable d'avoir le ballon et de construire avec le ballon parce qu'elle a récupéré des joueurs au milieu de terrain qui amènent du contrôle. Je pense à Reinders, qui pour moi est un cerveau sur le terrain, qui allie évidemment le côté cerveau justement, mais l'habilité technique aussi pour avoir l'action qui découle de l'idée qu'il a eue à travers la vision du jeu. Donc c'est un joueur éminemment important dans la construction du jeu et dans la construction lente, mais Milan est aussi capable d'être très fort en transition, notamment via son côté gauche, mais pas que, puisque Pulisic en transition avec son j'allais presque dire, c'était presque de la post-formation en fait à Dortmund, sur les phases de transition sur le côté droit où il excellait aussi, est capable d'amener beaucoup de vitesse. Donc ça sera sans doute une des clés du match. En fait, une des clés du match, je pense, pour les deux équipes, ça sera comment tu gères les transitions de l'adversaire. Parce que des deux côtés, tu as des joueurs, Mbappé, Dembélé d'un côté, Leao, Pulisic de l'autre, qui sont capables d'amener beaucoup de vitesse, qui ont des profils de dribbleurs, des dribbleurs en percussion, des dribbleurs en vitesse, en 1 contre 1. Et donc, il y a une grosse part qui va se jouer sur est-ce que ton organisation est en capacité à gérer le déséquilibre qui peut arriver en transition.
Et toi, tu donnerais une pièce à qui dans cette bataille-là, rapidement ?
Honnêtement, j'ai pas assez vu jouer le Paris Saint-Germain, donc moi je peux parler essentiellement de l'AC Milan. Moi je les trouve forts, je les trouve jeunes, je les trouve un peu verts encore. Donc il faudra voir si dans ce contexte-là ils sont capables de pas faire ce qu'ils ont fait contre Newcastle, c'est-à-dire être beau mais pas gagnant. Il faudra peut-être un peu moins beau, mais gagnant cette fois.
Dans voilà. Tous les commentaires qu'on a pu faire, je retiens évidemment toujours tout ce que tu dis, mais si je dois sélectionner un truc, c'est le calendrier. Le calendrier du Milan par rapport au calendrier de Paris Saint-Germain, qui pour moi vient se rajouter comme problème encore plus pour le Milan.
PSG Strasbourg, ce week-end.
Samedi à 17h, PSG Strasbourg, dimanche 20h45.
Samedi.
Ouais. Samedi 17h et dimanche 20h45, le choc contre la Juve pour le Milan.
Et après, et Paris, c'est déplacement à Brest.
Voilà, là où ils joueront Naples ensuite, les Milanais. Mais pour finir simplement, la Ligue des Champions, c'est aussi l'occasion de, entre guillemets, régler des comptes. On sait qu'historiquement, il y a une petite rivalité quand même entre le PSG et le Milan. Moi, j'ai souvenir de 95, voilà. D'ailleurs, c'est marrant, les quatre fois où tu les affrontes en Ligue des Champions, t'as l'aller-retour en 95, c'est Luis Fernandez qui est sur le banc. C'est le parcours extraordinaire du PSG qui élimine le grand Barça de Cruyff en quart et qui se fait planter par Boban au parc. T'as le doublé de Savicevic au retour. 2001, tu les rejoues avec Luis qui revient sur le banc avec un but de Nico Anelka là-bas. Tu les rejoues au Parc des Princes derrière, tu gagnes pas, t'as jamais battu le Milan, tu les as joué 4 fois en Coupe d'Europe, 2 nuls, 2 défaites, c'est l'occasion. Et surtout, c'est un enjeu énorme. Il y a ce côté un peu historique, ouais. Voilà. Sous l'ère QSI, il y avait plein d'adversaires que t'avais jamais battus, que t'as réussi à battre en Ligue des Champions. Ce serait une belle symbolique et surtout, c'est importantissime, encore une fois, cette double confrontation en vue de la qualification. Parce qu'après, là, tu vas te trimballer cette défaite 4-1 à Newcastle. Il faut absolument que le PSG gagne mercredi soir pour pouvoir s'ouvrir le chemin de la qualification. Encore une fois, c'est loin d'être joué. Ce groupe, il va être serré jusqu'au bout.
Newcastle 4 points, PSG 3, AC Milan 2 et Dortmund 1. Voilà pour le point du classement. Bon, petit kiff. Hein, on a kiffé au début de l'épisode.
Voilà, on y est. C'est mercredi soir, 20h45. On y est.
Et 21h.
Depuis mais moi, j'étais à 20h45 au parc.
Dans le canap, 20h45. Merci beaucoup, Johan, de passer nous
merci
faire un petit coucou.
Salut,
merci coach Jimmy.
Merci à Sylvain et à Jérôme en régie. Merci surtout à vous d'être là, fidèles comme toutes les semaines, au podcast After Paris qui revient la semaine prochaine, bien sûr, après ce Paris Saint-Germain à Sébilan. Bon match tout le monde.
RMC After Paris.